pour relier ces trois textes entre eux, pour faire ressortir ce qu'ils peuvent nous apprendre, nous dire aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un quatrième texte qui n'est pas dans la Bible, mais qui est pourtant l'un des textes fondamentaux du christianisme qui a énormément inspiré et qui est une référence constante dans les travaux des théologiens. Un texte qui nous vient de saint Augustin dans son livre « La cité de Dieu » qui s'appelle « Les deux cités ». Un court passage très instruisant. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. L'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, pour l'autre, Dieu, témoin de sa conscience et sa plus grande gloire. L'une dans sa gloire dresse la tête, l'autre dit à son Dieu, tu es ma gloire et tu élèves ma tête. L'une, dans ses chefs ou dans ses nations qu'elle subjugue, est dominée par la passion de dominer. Dans l'autre, on se rend mutuellement service par charité, les chefs en dirigeant, les sujets en obéissant. L'une, en ses maîtres, aime sa propre force. L'autre dit à son Dieu, « Je t'aimerai, Seigneur, toi ma force. » Voici un texte qui compare le règne de Dieu qui est dans ce monde à une cité. À une cité en opposition à la cité de ce monde. Cette phrase de Jésus qui disait « Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde », nous la retrouvons à travers ces idées. Nous la retrouvons à travers cette idée de, dans les épîtres de Jean aussi qui disent « Nous sommes dans le monde, mais pas du monde ». Cette idée que le royaume de Dieu est quelque chose qui prend naissance dans ce monde, qui se vit dans ce monde, que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens, à notre façon. Un royaume de Dieu qui a sa propre loi, sa propre façon de fonctionner, qui a son propre but, rendre gloire à Dieu et faire sa volonté. Alors dans les trois textes qu'on a entendus, on retrouve l'idée de cette dualité du monde, de cette dualité, cette tension entre ce règne auquel nous appelle à vivre Dieu et ce règne du monde, celui qui nous séduit, celui qui nous propose la gloire et sa lumière, celui qui passera. Face à Pilate dans l'évangile de Jean, Jésus dit bien « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu, je n'aurais pas été pris, il n'y aurait pas eu la croix. Mais la croix est le rejet du règne de Dieu. La croix est un nom que ce monde dit au règne de Dieu. Pourtant, le règne de Dieu demeure. À travers la résurrection, il reste dans ce monde, il reste une espérance vivante, il reste la fondation de l'Église et de notre espérance. Que reste-t-il comme différence dans les paroles de Jésus? C'est cette vérité. Si vous êtes de la vérité, alors vous aspirez à ce royaume de Dieu. Si vous êtes de la vérité, vous cherchez à courir après ce royaume-là, et non pas le royaume de ce monde. Paul, dans son épître aux Romains, parle à sa façon de cette dualité entre les deux mondes, de cet esclavage de la chair, ou liberté dans l'esprit. Nous avons reçu un esprit qui nous rend enfants de Dieu, qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Alors ne soyons pas esclaves de la chair. Être esclave de la chair, c'est suivre ses pulsions dans ce monde, c'est aspirer à cette gloire, à ces lumières, c'est aspirer à tous ses premiers sentiments, c'est vraiment ses pulsions. Et nous savons tous que lorsque nous nous mettons à suivre nos propres pulsions, ce n'est pas toujours très beau à voir. Nous savons tous que lorsque l'homme aspire à sa propre gloire, en général, ça fait des dégâts. À l'inverse, Paul nous dit « aspirez à recevoir l'Esprit ». Un esprit d'adoption, un esprit qui nous rend enfants de Dieu, qui nous rend héritiers, co-héritiers avec le Christ. C'est cette idée que Jésus est ce roi, que nous aspirons à son royaume et que si nous sommes nous aussi enfants de Dieu, alors nous sommes cohéritiers avec le Christ de ce royaume. Nous partagerons ce royaume avec lui. Enfin, il y a le texte de l'Apocalypse qui nous parle de ces choses nouvelles. Ce qui était premier n'est plus, mais maintenant, toutes choses sont nouvelles. Une vision d'une espérance à venir, d'un moment où les pleurs et les deuils seront finis, d'un moment où Dieu habitera réellement concrètement dans ce monde, d'un moment où ce sera réellement le règne de Dieu qui prendra toute la place. Les choses premières de ce monde seront passées, toutes ces choses passent, et les choses du royaume de Dieu demeureront, seront renouvelées, la création tout entière dans un monde nouveau, dans le règne où Jésus est roi. Voilà trois images du royaume de Dieu qui est dans notre monde auquel nous pouvons aspirer. Et cependant, on se pose une question, c'est comment faire ? Comment faire pour choisir ce royaume, cette voie que nous dit le Christ ? Est-ce qu'il suffit de renoncer entièrement à ce monde, se mettre en haut d'une montagne, s'enfermer dans une petite chapelle et n'aspirer qu'aux gloires de Dieu ? Est-ce qu'il suffit de prier, d'être dans son coin, de lire la Bible, de s'instruire, d'aspirer à Dieu, tout en se détachant de ce monde, du règne de ce monde ? Les choses ne sont pas aussi simples. Au Moyen Âge, on pensait que ces deux règnes, ces deux cités, étaient le règne où étaient appelés à vivre ceux qui avaient choisi la voie de l'excellence, les moines qui se retiraient. Là, pour eux, était un petit peu le règne de Dieu déjà dans ce monde. Et leur loi, finalement, ce n'était pas la loi du talion, c'était le sermon sur la montagne. À l'inverse, pour tout le reste du peuple, celui qui vivait dans ce monde, il fallait bien qu'il y ait une justice. Alors, pour le reste de ce monde, il y avait la loi du talion qui rendait la justice, une façon de dire, nous vivons encore sous les contraintes de ce monde, adviendra ce qu'il adviendra pour l'au-delà. Luther a été en rébellion contre cette idée. Il a dit non, cette loi parfaite, cette loi de l'évangile, du sermon sur la montagne, elle est pour tous les chrétiens. Elle n'est pas réservée pour ceux qui veulent s'enfermer dans des monastères et vivre d'une exclusivité retirée du monde. Tout le monde est appelé à vivre de cette loi du sermon sur la montagne. Tout le monde est appelé à tendre la joue droite lorsqu'on frappe sur la joue gauche, à porter un sac sur 2000 quand on nous demande de le porter sur 1000. Tout le monde est appelé à prier pour son ennemi. C'est là la règle du chrétien à laquelle celui qui veut suivre le Christ, le moindre des chrétiens, est appelé. Alors bien sûr, demeure la nécessité d'une justice rétributive, d'un État qui permettrait de veiller sur les gentils comme sur les méchants, sur les païens comme sur les chrétiens. Et Luther définit ainsi qu'il y a deux règnes, le règne du glaive de l'État et le règne du glaive de l'Église. Le glaive de l'État, c'est celui qui va rendre la justice, qui va permettre une nécessaire justice pour que ce monde soit vivable. Le glaive de l'Église, c'est celui qui règne sur les choses spirituelles, sur le règne de Dieu, qui nous mène au règne de Dieu. Cette idée a fait son chemin. Elle a été peut-être parfois simplifiée en compartimentisant la société, d'un côté l'État, de l'autre côté l'Église, comme si l'un et l'autre n'avaient rien à se dire. L'un et l'autre régnaient sur ces domaines, l'un et l'autre devaient être entièrement libres des choses de l'autre. Mais cette idée a produit aussi le drame, des drames, et finalement a été complètement remise en question après la Shoah. Lorsque Hitler arrive au pouvoir en 1933 en Allemagne, l'Allemagne essentiellement luthérienne, de bien des façons, a refusé de s'engager dans la question politique. Il y avait une partie de l'Église qui adhérait au nazisme, il y avait une partie de l'Église confessante, souterraine, qui résistait au nazisme. Et puis il y avait aussi toute cette partie de l'Église qui, au nom de la doctrine des deux règnes, s'est désengagée et a laissé le glaive de l'État être le glaive de l'État, pensant qu'il n'avait qu'à régner, qu'à se soucier du glaive de l'Église, des choses spirituelles. Alors forcément, à la fin de la guerre, il y a eu une grande remise en question, qui s'est illustrée notamment à travers le manifeste de Barmen, duquel Barthes est essentiellement l'auteur. Barthes, ce grand théologien calviniste, a pu critiquer cette théologie des deux règnes qui a amené une certaine passivité, une compartimentation de l'Église et de l'État. Pour lui, Dieu est le Rédempteur, le Christ est le Rédempteur qui règne sur l'Église, mais aussi le Christ et par qui toute chose a été faite, qui règne aussi sur toute la création. Le Christ règne sur tout, il ne règne pas seulement sur l'Église. Au nom de cela, il est important de comprendre et de suivre le Christ dans l'Église, mais aussi de lutter pour le Christ en dehors de l'Église. Alors au fond, certains observateurs pointus ont dit il n'est pas contre Luther, il est contre une certaine interprétation de Luther. Et pour nous réconcilier, il y a cette phrase de Luther qui dit vraiment les choses, « Le vrai chrétien ne vit pas pour lui-même, mais pour son prochain. » Le vrai chrétien ne reste pas enfermé dans le règne de l'Église, mais vit entièrement dans le règne du monde et se bat pour ce règne du monde. Jésus, lorsqu'il est face à Pilate et qu'il dit « Mon règne n'est pas de ce monde », il est face au règne de ce monde, il est face à celui qui représente la puissance de ce monde. Et pourquoi est-il arrivé là? Parce qu'il s'est battu dans ce monde, il a annoncé le royaume de Dieu dans ce monde, il a guéri dans ce monde, il a parlé de justice, il a parlé d'amour, il a parlé de réconciliation dans ce monde, pour ce monde. Il n'a pas cherché à être hors du monde. Lui-même, il a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Ce n'est pas un chemin de rose, ce n'est pas quelque chose qui nous éloigne des malheurs de ce monde, c'est quelque chose qui assume la croix de ce monde, dans ce monde. De même, Paul aurait pu rester à Antioche, où il a reçu toute sa formation. Paul aurait pu être un chrétien brillant dans son église, et puis être au bénéfice de toutes ces révélations, de toute cette spiritualité qu'il avait, mais non, Paul a parcouru le monde. Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, il raconte un moment toutes les mésaventures qui lui est arrivées. Il a fait naufrage de foi, plusieurs fois il a été lapidé, chassé, il a fait la prison, il a été torturé. Il a enduré toutes ces choses, la maladie, la faim, tout ça pour le Christ, pour annoncer l'Évangile dans ce monde, pour être au service de son prochain. Parce qu'effectivement, le chrétien ne vit pas pour lui-même, mais pour son prochain. Lorsque les Écritures nous appellent à chercher le royaume de Dieu, elles nous invitent à le faire bien aussi dans les difficultés de nos vies, dans nos deuils, dans l'exercice des fonctions publiques de ce monde, en s'engageant dans les sociétés, en s'engageant dans la politique. Elle nous invite à le faire aussi dans nos familles, quand bien même parfois les relations sont difficiles, entre frères, sœurs, entre parents, enfants, entre cousins, entre gendres, belles-filles, beaux-pères, belles-mères. Elle nous invite à le faire envers notre prochain, envers notre voisin, quand bien même celui ne partage pas notre foi. Celui-ci ne partage pas notre foi, quand bien même celui-ci est musulman, bouddhiste ou athée. Elle nous invite à être à leur service. Et la meilleure façon d'être à leur service, c'est de partager avec eux l'espérance du règne de Dieu. C'est de partager avec eux la joie et la paix que nous offre le Christ. Alors oui, il y a dans ce monde un chemin de croix. C'est peut-être à cela que nous sommes invités à être chrétiens, en étant au service du prochain. À suivre, à porter notre croix dans ce monde, à s'engager dans ce monde, quand bien même cela passe par la persécution, passe par les injures, passe par la moquerie. Et certains chrétiens qui ont des destins bien plus difficiles que nous pourront nous en témoigner. Oui, être chrétien dans ce monde, c'est parfois réellement porter une croix jusqu'à la mort. Mais avec cette confiance fondamentale qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et le gloire, et la gloire que Dieu nous réserve. Qu'il n'y a pas de commune mesure entre ce que nous vivons dans ce monde et entre l'appel du royaume de Dieu, celui auquel nous aspirons, celui auquel nous serons. C'est là l'espérance du chrétien, c'est là le moteur qui le guide, qui lui permet d'accepter la souffrance, d'accepter la croix, cette espérance en un royaume pour lui et pour son prochain, où nous serons enfants de Dieu, où Dieu habitera parmi nous. Amen.